Les paractualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les paractualités du 6 décembre 2017. Hélène Denis au micro. Et en manchette aujourd'hui, des victimes de la thalidomide insultées par les commentaires du ministre des Personnes handicapées. Un programme élite de ski adapté à Bromont, un coup de pouce aux proches aidants, une poursuite pour erreur médicale à Grand-Sault. En entrevue, je reçois Joanne Pomerleau, présidente de la Fédération des professionnels et des professionnels de l'éducation du Québec, ainsi que Martin Couture, directeur général de l'entreprise adaptée Impression Alliance 9000, située à Amqui. Nouvelle sur le site de Radio-Canada, les membres d'un groupe de victimes de la thalidomide sont choqués et insultés à la suite d'une rencontre avec le ministre fédéral des personnes handicapées, Kent Hur. Lors d'une conférence de presse organisée mardi à Ottawa, les membres du groupe ont accusé le député de Calgary d'avoir fait des commentaires inappropriés au sujet de leur espérance de vie. Le ministre nie une de leurs accusations et affirme s'être excusé pour ces commentaires qui auraient été mal interprétés. La thalidomide, un médicament donné aux femmes enceintes dans les années 1950 et 1960, a causé des malformations chez des milliers d'enfants au Canada. Fiona Sampson, une victime de thalidomide et avocate spécialisée dans les droits de la personne, était à la rencontre du 19 octobre. En réponse au témoignage touchant des membres de notre groupe, le ministre Hare, sans provocation, a dit « Bien, ce n'est pas aussi grave pour vous comme adulte que ça l'était quand vous étiez enfant », dit Fiona Sampson. Il a ensuite dit « Votre situation n'est pas si grave. Tout le monde au Canada a sa triste histoire. » Fiona Sampson affirme que le groupe a expliqué au ministre que leur espérance de vie est courte et que 5 membres du groupe sont décédés depuis qu'Ottawa s'est engagé à aider les victimes de la thalidomide en 2014. Dans une déclaration, Ken Hur nie avoir commenté l'espérance de vie de ces personnes et dit que ses propos ont été mal interprétés. Les survivants demandent au gouvernement fédéral de respecter l'engagement de les compenser avec une somme forfaitaire de 250 000 $ et de meilleures pensions annuelles. La Chambre des communes avait unanimement approuvé une motion pour soutenir les victimes de la thalidomide en décembre 2014. Sur le journal de Montréal.com, l'autisme expliqué par un garçon de 9 ans. Un garçon autiste de 9 ans a fait une vidéo dans laquelle il parle de lui, mais surtout de ce trouble qui l'affecte depuis sa naissance. Dans le cadre d'un travail scolaire, le jeune Georges explique à ses camarades de classe qu'il est autiste. « Je n'ai pas parlé avant d'avoir 3 ans. Mes parents ne savaient pas si je parlerais un jour », explique le garçon. La plupart du temps, je peux avoir un contact visuel quand on parle, mais ça n'a pas toujours été le cas de dire Georges. Comme beaucoup de jeunes autistes, même si je ne regarde pas, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. Georges a parfois de la difficulté à se concentrer quand il y a beaucoup de bruit et ajoute qu'il prend souvent les choses qu'on lui dit au pied de la lettre. Si vous me demandez de prendre un siège, il y a de bonnes chances qu'il manque une chaise dans votre classe, blague-t-il. Par contre, tout n'est pas toujours rose dans la vie de Georges qui admet trouver certaines choses difficiles. Par exemple, lorsqu'il se fait interrompre, lorsqu'il commet une erreur ou encore lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Grand amateur de musique et aspirant DJ, c'est même lui qui a fait toute la musique que l'on peut entendre dans la vidéo. C'est son père qui l'a aidé avec le montage de la vidéo. Je parle maintenant avec Joanne Pomerleau, présidente de la Fédération des professionnels LE et professionnels de l'éducation du Québec. Bonjour, Mme Pomerleau.
Bonjour.
Le 18 novembre dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, annonçait l'abolition de la validation des codes pour le financement des élèves handicapés ou ayant des troubles graves du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous.
C'est une bonne nouvelle. Ça fait depuis 2013, suite à une enquête que nous avions faite auprès de nos membres qui étaient directement impliqués dans l'opération validation, qu'on appelle, qu'on dénonçait cette pratique qui existe depuis de nombreuses années au niveau du financement et qu'on demandait de cesser la partie validation au niveau du ministère.
Ça veut dire quoi exactement?
En fait, essayer de faire ce cours, oui, comme oui. On dit, c'est que au début de l'année, au 30 septembre, on doit déclarer les élèves. On doit déclarer les élèves qui sont dans une école. Et s'il y a des élèves qui sont handicapés ou en difficulté, en trouble de comportement, nos EHDA ou en difficulté d'apprentissage, on doit l'indiquer. Il y a une cote pour indiquer que cet élève-là a telle problématique. Mm-hmm. Donc, ceci, il faut le faire. C'est normal. Mais suite à cette déclaration-là, le gouvernement demandait, je dirais, de justifier les cotes qui étaient données par les professionnels. Les professionnels devaient s'assurer d'avoir le diagnostic, de pouvoir prouver que l'enfant avait des limitations et qu'il avait besoin de services. Et donc, après la déclaration au 30 septembre, à partir environ du mois de novembre, le ministère demandait aux commissions scolaires, bien, justifiez-nous chacun des élèves pour qui vous avez mis une cote de difficulté. Et cette justification-là, les professionnels, donc, avaient de nombreux documents à fournir pour prouver que, ben oui, cet enfant-là a telle difficulté, il a besoin de tel service. Et les professionnels se plaignaient de passer plusieurs semaines vers la fin de l'automne jusqu'à Noël pour remplir les documents, je dirais, qui étaient uniquement administratifs. Ces documents-là devaient être envoyés au ministère et là, il y avait des fonctionnaires qui devaient s'assurer que tout était là pour justifier que l'enfant répondait bien à leurs critères. Mais c'était, j'ai le goût de dire, c'est comme si un médecin vous dit que vous avez une tumeur et qu'il doit attendre 3 mois que quelqu'un au ministère dise « Oui, oui, c'est beau, il y a bien une tumeur, tu peux avoir l'argent pour le soigner. » C'était un petit peu ça.
Un nous, peu absurde.
Aucun bon sens. Mm-hmm. Fait que là, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, oui, c'est sûr, il faut toujours faire le diagnostic. Il faut savoir c'est quoi que l'enfant a. Ça, cette étape-là n'est pas modifiée. Les professionnels vont devoir évaluer les jeunes pour pouvoir bien cerner la problématique de l'enfant. L'enfant va être coté au 30 septembre dans la déclaration. Mm-hmm. Et, puis l'autre problème qu'on avait, c'est que l'argent arrivait au printemps parce que toute cette démarche-là prenait beaucoup de temps.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est le modèle de financement actuel, ça?
C'est le modèle de financement actuel. Et là, avec le changement, l'argent est supposé d'arriver à l'automne. Et donc, il va y avoir uniquement un échantillonnage qui va être fait pour aller valider, on nous dit, environ 10 % des enfants qui vont être déclarés. Donc, on croit que le temps qui va être consacré à cette démarche-là, qui est purement administrative, va être d'autant réduit. Et on espère que ça va permettre à nos professionnels de passer plus de temps pour aider les jeunes qui en ont besoin plutôt que de remplir des papiers.
Certainement, moins de grosses bureaucraties. Comment assurer un bon financement en commission scolaire, Mme Pomerleau?
C'est pas facile, c'est complexe et je sais que le gouvernement cherchait depuis longtemps. Il était quand même conscient de la problématique du financement et je crois que ce qu'ils essaient présentement est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire on part des élèves identifiés, on envoie l'argent plus rapidement, on fait une vérification et il faut que l'argent arrive plus rapidement. Il faut permettre aussi que s'il y a des élèves identifiés pendant l'année, qu'on puisse les déclarer et que l'argent puisse suivre.
Oui.
Mais c'est difficile, je vous dirais que j'aimerais bien avoir une réponse claire et précise, dire si on faisait ça de telle façon, tout serait réglé, mais malheureusement, comme on dit, si c'était facile, ça serait déjà fait.
C'est ça, il n'y a pas de recette magique.
Il n'y a pas de recette magique.
Et Mme Pomerleau, en terminant, connaissez-vous le pourcentage d'élèves qui ont besoin d'un soutien scolaire particulier au Québec?
On est présentement au niveau des EHDA, donc les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, là, de façon globale.
Oui.
On parle d'environ 20 % des élèves qui ont des difficultés et ce nombre-là est en augmentation oui. depuis quelques années. Donc, c'est quand même un enfant sur cinq qui a besoin de support, qui n'est pas toujours aussi sévère. La problématique peut être plus ou moins sévère, mais on parle quand même de 20% environ des élèves qui auraient besoin de support, de soutien, de services professionnels ou de services de soutien comme des techniciens pour pouvoir bien réussir leur scolarité. Mm-hmm.
Alors, je comprends que l'annonce de l'abolition de la validation des codes pour le financement des élèves handicapés ou ayant des troubles graves du comportement soulage plusieurs personnes, d'autant plus que ça va en augmentation.
Exactement. C'est sûr que nous, on va surveiller comment ça va être mis en application dans les milieux et si ça n'entraîne pas d'autres problèmes qui, présentement, sont pas évidents parce que c'est nouveau. On sait aussi que cette année est une année de transition. Est-ce qu'il va y avoir des changements par la suite? On surveille ça de très, très près pour nous assurer que le résultat est bien celui que nous espérons, c'est-à-dire moins de bureaucratie puis plus de services pour les élèves.
Oui, on va surveiller ça avec vous, Joanne Pomerleau, présidente de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. Un grand merci pour cette entrevue.
Ça m'a fait plaisir.
Dans la voie de l'Est.ca, un programme élite de ski adapté à Bromont. Un programme de ski adapté d'élite débutera au tournant de 2018 sur les pentes de Bromont, montagne d'expérience. Instigateur du projet, Philippe Bédard souhaite attirer un jour l'équipe canadienne de cette discipline dans la région. Le but premier du programme, c'est de peut-être semer la graine chez un jeune athlète, de lui donner envie d'aller aux Jeux paralympiques, indique Bédard, qui a lui-même participé aux Jeux de Londres et de Rio dans la discipline du tennis en fauteuil roulant. Au cours des prochains mois, une dizaine de skieurs d'élite sont attendus à l'entraînement les week-ends et quelques-uns en semaine. Des entraîneurs certifiés pourraient se joindre à l'aventure au cours des prochains mois. On veut que les gens nous voient skier et voient qu'on est à un haut niveau. On veut bien s'intégrer à la station, précise le Bromontois d'origine, aujourd'hui installé à Montréal. Bédard agira notamment comme mentor dans le cadre du programme qui sera piloté par la Fondation des sports adaptés. Le ski assis est une de nos grosses forces. On a des équipements pour accommoder tout le monde. Avec les années, on a décelé des jeunes qui ont un potentiel incroyable de développement pour avancer et peut-être même représenter l'équipe canadienne au niveau paralympique. Mais au Québec, il n'y a pas de centre d'entraînement, souligne le directeur exécutif de l'organisme, Steve Archambault. La Fondation des sports adaptés dirige déjà un programme à la station All Z de Mansonville, lequel est toutefois centré sur l'initiation au ski adapté. Sur le site de Radio-Canada, un coup de pouce aux proches aidants. Certains proches aidants auront désormais droit à des prestations d'assurance-emploi grâce à l'assouplissement des règles par le gouvernement fédéral. Il s'agit de prestations d'assurance-emploi qui atteignent 55 % du salaire du proche aidant pendant 15 semaines, mais encore faut-il être admissible et vouloir recourir à cette mesure. Ce qu'on entend beaucoup de la part des proches aidants, c'est qu'ils ressentent des craintes et même des fois de la culpabilité à approcher leur employeur et à leur demander du temps personnel. Il est vrai que des absences prolongées sont susceptibles de causer un casse-tête à certains employeurs, particulièrement dans les petites entreprises. Les gens ne savent pas, mais la contribution n'est pas égale entre les employeurs et les employés. C'est la contribution de l'employeur à 60 % et celle de l'employé à 40 %. Plus on va chercher à bonifier le régime d'assurance-emploi, plus les employeurs vont être légitimés de demander au gouvernement que ce soit au moins partagé 50 %. Tous s'entendent pour dire que la situation s'accentue avec le vieillissement de la population et qu'il faut en faire plus pour les proches aidants qui contribuent à désengorger le système de santé. 80 % de l'aide est offerte par les proches aidants, 20 % par le milieu médical. Les nouvelles mesures du gouvernement fédéral ne s'appliquent automatiquement qu'à ses employés, soit 6 % des travailleurs canadiens. Pour les autres, les dispositions en matière de congés sont appliquées par les provinces et les territoires. Au Québec, ce sont les normes du travail qui constituent le minimum à respecter par l'employeur et elles protègent l'emploi lors d'un congé seulement si le travailleur est parent d'un enfant malade. Les proches aidants demandent une révision de cette loi pour y intégrer un statut légal à leur égard. Et on parle maintenant avec Martin Couture, qui est au bout du fil, directeur général de l'entreprise adaptée Impression Alliance 9000, située à Amqui. Bonjour, M. Couture.
Bonjour, Mme Denis.
Est-ce qu'il fait beau à Amqui?
Le soleil essaie de percer tranquillement.
Bon, il y a de l'espoir. Est-ce que vous avez de la neige chez vous?
Oh, absolument, on a de la neige depuis la fin du mois de novembre.
Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes plus chanceux que les gens qui en réclament à Montréal, mais ça viendra.
Ça viendra.
Alors, comment décrivez-vous votre entreprise, M. Couture?
Bien, Impression Alliance 9000, c'est tout d'abord un organisme à but non lucratif géré par un conseil d'administration, mais c'est surtout une entreprise adaptée qui est membre du réseau québécois du Conseil québécois des entreprises adaptées. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'on emploie des gens avec des limitations fonctionnelles.
Quel type de limitation?
Les limitations sont très diverses. En fait, on a des limitations physiques, intellectuelles et psychiques.
Ah oui?
Quand on parle de psychique, on parle là, de dépression, bipolarité, schizophrénie, autisme. C'est tous des gens là, de notre clientèle, nos employés.
Mm-hmm. Et quelles compétences développent-ils dans votre entreprise?
En fait, ils vont développer toutes les compétences à tous les niveaux parce que étant une entreprise adaptée, on doit absolument avoir un minimum d'employés admis. Donc, chez nous, le minimum par la loi, c'est 60 % Chez nous, on a 84 % de notre personnel qui est admis.
Et, vous dites donc, admis? Des employés admis, d'accord. D'accord.
Donc, des gens avec des limitations fonctionnelles.
Oui.
Donc, 84 % de notre personnel étant des gens avec des limitations fonctionnelles, vous comprenez qu'ils sont impliqués à tous les niveaux de notre organisation. Et comme on fait de l'impression, de la reliure et du boudinage de documents, ils sont vraiment à chaque étape. Donc, que ce soit de la reliure, on parle à ce moment-là à l'impression numérique, que ce soit au tri et à l'assemblage des feuillets pour les assembler en documents, que ce soit de la perforation manuelle, automatisée, que ce soit de la coupe de documents, que ce soit du boudinage en spirale plastique ou fil métallique. C'est tout des fonctions auxquelles ils vont être impliqués, même des fonctions de soutien comme à l'expédition, réception, à la maintenance des bâtiments, à la maintenance des équipements. On va avoir également la fonction administrative, on va avoir un certain nombre de chefs d'équipe, de superviseurs même, et une bonne partie de mon service à la clientèle sont des gens admis.
D'accord. Et puis, il y a combien d'employés à Impression Alliance 9000?
Impression Alliance 9000, environ 150 employés.
150 employés.
Oui.
Et quels services avez-vous à leur disposition pour les aider dans leur intégration?
En fait, il y a deux niveaux d'intégration. On va parler de l'intégration en entreprise, évidemment. Donc, on a un système de parrainage qui est suite à un comité d'intégration. Les employés qui sont admis vont être accueillis et vont être parrainés par un autre employé qui a de l'expérience dans son domaine. Là, on va avoir plusieurs formations mises à leur disposition pour les tâches spécifiques, là, comme on en parlait tantôt, que ce soit pour l'impression numérique, que ce soit pour l'assemblage des feuillets, des documents, que ce soit de la salaire simple, mais la perforation manuelle ou automatisée, ça prend une grande précision. Le boudinage également, c'est une expertise qui se développe avec le temps. Donc, on va avoir du parrainage, puis on va avoir des plateaux de pratique pour ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier que notre mission, notre mandat, c'est également d'intégrer nos gens au niveau de la société et potentiellement en entreprise régulière. Mm-hmm. Donc, on va avoir énormément de soutien au niveau social, au niveau budget individuel. On va les soutenir en cas de maladie. Il va y avoir des accompagnements. Nos gens sont souvent des gens qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui ont besoin de soutien dans différents formulaires gouvernementaux, qui ont besoin d'être référés à des bonnes ressources gouvernementales au besoin. On va avoir des programmes d'alphabétisation. On va recevoir des conférenciers pour des thèmes comme le testament, l'assurance vie, même la prévention du suicide. Donc, on a vraiment une gamme complète de services. On va aussi faire ce qu'on appelle du prêt-service, c'est-à-dire qu'on va faire vivre une expérience dans une entreprise régulière à des employés pour les inciter là, à transiter vers les entreprises régulières puis leur permettre de voir un peu là, le déroulement dans une entreprise régulière.
Vous dites qu'il y a environ 150 employés. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes?
Oui, la proportion, je dirais presque 50-50. Là, exactement, on est à 51% hommes, 49%.
Ah oui, c'est pas mal moitié-moitié.
C'est pas mal moitié-moitié.
Est-ce qu'il y a de la place pour les activités sociales dans votre entreprise?
Oui, on essaie d'en avoir autant que possible, évidemment. Il y a déjà, faut comprendre que le milieu de travail, c'est déjà le milieu social pour la plupart de ses employés, oui. De nos employés. On le sent, ils arrivent très tôt au travail, c'est leur lieu de rassemblement. Donc, on va faire des activités rassembleuses et thématiques. Par exemple, là, on va avoir à la Saint-Valentin, on va faire un déjeuner. Donc, c'est les directeurs qui vont cuisiner le déjeuner pour la Saint-Valentin, pour tous les employés. On va avoir les épluchettes de blé d'Inde, on va avoir des rencontres sportives. Là, on est en train d'organiser une activité pour aller voir l'équipe de hockey du junior majeur à Rimouski. Là,
mm-hmm. Une fête de Noël, j'imagine, aussi?
Oui, évidemment, la fête de Noël. On va fêter ça le 15 décembre, la semaine prochaine, gros rassemblement de la fête de Noël. Donc, l'objectif, c'est évidemment de sortir nos employés de l'isolement.
Oui, et M. Couture, Impression Alliance 9000 est l'un des plus importants imprimeurs de l'Est du Québec et l'un des plus grands producteur de calendriers de bureau et d'agendas au Québec. Alors là, c'est le temps d'offrir des calendriers, des agendas avec le temps des fêtes qui s'en vient. Où on peut se procurer vos calendriers, vos agendas?
Vous pouvez les procurer sur notre e-boutique en ligne à impressionalliance9000.com. Mm-hmm. Donc, on est directement en ligne. Vous pouvez commander des agendas et des calendriers spécifiques et personnalisés. Mais effectivement, on est le plus grand manufacturier de calendriers dans l'Est du Québec. On fait tous les calendriers, par exemple, pour le Mouvement des Jardins. C'est tous des calendriers qui sont boudinés ici chez Impression Alliance 9000.
Ah oui. Bien, Martin Couture, directeur général de l'entreprise adaptée Impression Alliance 9000, située à Amqui. Merci de nous avoir fait connaître votre entreprise.
Et merci à vous.
Bravo pour le beau travail. Au revoir.
Merci.
Une poursuite pour erreur médicale à Grand-Sault, c'est sur le site de Radio-Canada. Un homme de la région de Grand-Sault, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, poursuit des intervenants en santé après un accident qui lui a fait perdre la vue. Donald Deschênes de Drummond demande une compensation pour l'erreur médicale qu'il affirme avoir subie. 8 personnes ou entités sont visées par cette poursuite conjointe de Donald Deschênes et de sa femme Monique Deschênes. Dans la poursuite déposée en juin dernier, le couple accuse les défendeurs d'avoir fait preuve de négligence lorsqu'ils ont traité M. Deschênes. L'histoire a commencé en juin 2015 lorsque Donald Deschênes s'est servi de kérosène pour allumer un feu. Ses pantalons ont alors pris feu, brûlant son corps à 80 %. Après avoir été transporté à l'hôpital général de Grand-Sault, puis à l'hôpital régional de Saint-Jean par ambulance aérienne, l'homme dans la cinquantaine a finalement passé 4 mois dans l'unité de soins au brûlé de l'hôpital Queen Elizabeth II d'Halifax. C'est à ce moment que le personnel soignant se serait rendu compte de sa cécité, qui aurait été causée par la mauvaise administration d'un traitement contre ses brûlures. La poursuite mentionne la perte importante de qualité de vie qu'a causée la cécité de Donald Deschênes. Camionneur de profession, il ne peut plus travailler ni s'occuper de tâches ménagères. Il a également dû déménager dans un foyer de soins puisque sa femme a dû retourner au travail et ne pouvait plus s'occuper de lui. Le couple poursuit les défendeurs en dommages et intérêts pour toutes les pertes financières occasionnées par la cécité de M. Deschênes, ainsi que pour la baisse de sa qualité de vie. Nous sommes entrés en contact avec Donald Deschênes, mais il a préféré ne pas accorder d'entrevue. Ce défi avait pour but de récolter de l'argent pour faire progresser la recherche contre la maladie de Charcot. Il avait fait beaucoup parler de lui en 2014, Anthony Sinerkia, l'homme qui a lancé le concept de Lice Bucket Challenge, est mort samedi dernier, a notamment rapporté mercredi la chaîne américaine ABC 10. Lice Bucket Challenge, littéralement le défi du seau glacé, consistait à se faire arroser en se mettant en scène et à diffuser les images sur Internet et les réseaux sociaux. Le but n'était pas juste de créer des gags, mais de collecter de l'argent pour la lutte contre la maladie de Charcot. Aussi appelée sclérose latérale amyotrophique, il s'agit d'une maladie neurodégénérative. Anthony Sinerkia est mort de cette sclérose à l'âge de 46 ans. Le diagnostic avait été posé en 2003. C'était un guerrier. Il a rendu notre vie meilleure, a réagi sa veuve, expliquant qu'il avait trouvé de la force grâce à leur fille âgée de 9 ans. CETAL, décoré du prix d'excellence. Alors, bravo, on avait une entrevue récemment, le 23 novembre, avec le directeur général de CETAL, M. Stéphane Levac. En lien avec la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, la ville de Victoriaville a procédé à la remise de son prix Victoriaville Ville inclusive. Cette reconnaissance vise à souligner de façon concrète les efforts qu'un organisme ou une entreprise publique ou privée a réalisés dans l'aménagement de ses locaux et dans son offre de services afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation pour les personnes en situation de handicap. Cette distinction annuelle est décernée par le Comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle sur recommandation et réception de mises en candidature provenant des organismes et établissements œuvrant auprès des clientèles ayant des incapacités. Pour cette 11e édition, le Comité a choisi de remettre son prix d'excellence à l'entreprise CETAL pour son engagement exceptionnel à l'intégration à l'emploi de personnes en situation de handicap au sein de son entreprise nouvellement installée dans le parc industriel PA Poirier à Victoriaville. Leur pratique exemplaire misant sur les capacités et le développement du plein potentiel des individus s'inscrivent véritablement dans les principes du développement durable. Bravo à CETAL! C'est tout pour les paractualités de ce 6 décembre 2017. Merci à mes invités, Joanne Pomerleau et Martin Couture. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis, merci à vous et on se retrouve demain aux paractualités.